Maestrachi, on vous a retrouvé en direct de Roland-Garros, Rafael Nadal, Novak Djokovic, un set partout, concours de mythes.
Je vous prie de m'excuser Laetitia, je m'étais perdu dans les tuyaux de la grande maison de la radio. Effectivement, on joue depuis 1h49 dans cette première demi-finale. Elle est superbe cette première demi-finale, très franchement, très équilibrée, très indécise. Elle risque encore de durer un bon moment pour notre plus grand plaisir. Première manche, 6-4 pour Rafael Nadal. Deuxième manche, 6-3 pour Novak Djokovic. On en est à 0 partout dans le troisième set avec le service de Nadal qui va peut-être bientôt remporter sa mise en jeu. À tout à l'heure
Matteo Maestrachi en direct de Roland-Garros, 15h04 sur France Inter. Tout de suite, là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet. Allez.
Dans les médias, depuis 3 ans, à chaque agression, à chaque tabassage par des militants fascistes ou identitaires, on en entend parler comme si c'était un truc de jeune, un jeu, la danse classique de l'extrême gauche contre l'extrême droite. Bon, d'abord, faudrait voir à pas cantonner. Le fascisme n'est malheureusement pas réservé à l'extrême droite. Et en réponse, il y a plutôt intérêt à ce que l'antifascisme ne soit pas le devoir que de l'extrême gauche. Il faut créer une unité massive contre ce cancer idéologique et social, qu'on soit militant ou militante, dans un parti ou un syndicat, ou nulle part. L'antifascisme nous concerne toutes et tous. Ensuite, les médias enlèvent un peu les pots de saucisson qu'ils ont devant les yeux et qu'ils nous collent à tout va. Rien que sur Lyon, depuis 3 ans, les agressions des groupuscules fascistes ont entraîné plusieurs blessés graves, ont donné lieu à plus de 500 jours d'ITT, soit 39 agressions et 2 tentatives de meurtre. Rien que sur Lyon. La mort de Clément, elle est atroce, elle est inacceptable, et elle n'est pas un événement inattendu. Elle est la suite logique du boulevard que les discours de droite comme de gauche ont ouvert aux fascistes. Il est grand temps qu'on inverse la tendance.
Est-ce qu'il aura fallu cette mort de ce jeune-là pour que les journalistes des médias français se rappellent de ce que c'est qu'une extrême gauche? Qu'est-ce que c'est qu'une gauche? Qu'est-ce que c'est une droite? Et qu'est-ce que c'est une extrême droite? Depuis des mois, le front de gauche, il est taxé d'extrême gauche, alors que ce n'est qu'une gauche réelle. Et voilà, il y a un plus gros problème là. Et je voudrais rappeler aussi aux électeurs du Front National que s'ils veulent de l'ordre, si c'est ça qu'ils veulent, le Front National a déjà ses milices de prêtes et ils vont vous mettre de l'ordre, quoi. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao.
Jean-François Copé réclame la dissolution des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche qui sont, dit-il, un danger. Et il est fou ce type. Il veut dissoudre la moitié de l'UMP.
Ouais, salut Daniel, c'est Geoffrey. Ben voilà, je fais écho au message de l'auditeur qui parlait d'un reportage qu'il avait vu sur les chasseurs antifascistes sur Paris qui sévissaient dans les années 80. Et voilà, justement, je me posais la question... Où est-ce que vous êtes Red Dragon? Où est-ce que vous êtes Antifa? Où est-ce que vous êtes Redskins? Que s'est-il passé avec vos héritiers? Comment ça se fait que l'on ne vous voit plus? On vous regrette et on voudrait que vous soyez là. On vous embrasse.
Bonjour, c'est Jean-Luc Concarneau. Voilà, j'adresse un message de soutien à la famille de Clément, assassiné par une bande de lâches, tout simplement. Voilà, je me sentais trop touché par ce drame que je suis en train de voir à la télévision. Et donc voilà, je ne sais pas quoi faire d'autre, il n'y a pas grand chose à faire d'autre malheureusement, si ce n'est que interdire l'existence des groupes extrémistes tout simplement, pour commencer, et puis agir au mieux contre cette violence. Voilà, merci.
Et à Lille aujourd'hui.
Il aura fallu un mort pour qu'on remette en cause l'existence des mouvements d'extrême droite. Comment peut-on, après le sacrifice de toute une génération, autoriser des groupes tels que les jeunesses hitlériennes? Ah pardon, les jeunesses nationalistes. Mais bon, si vous avez vu leurs affiches, ça rappelle quand même des souvenirs. Vous savez, un aigle, les ailes déployées, et leur site avec des liens où l'on cause nationale, sociale, radicale, ou encore défendre le maréchal, ça choque personne ça? Et le mieux, ce sont des gens qui se disent défendre la patrie. Jérémy dans l'Est.
Oui, bonjour, c'est Eric de Gérardmer. C'est pour dire qu'on appelle à rassemblement à la mémoire de Clément Méric ce soir à 18h devant la mairie de Gérardmer. Soyons le plus nombreux possible, soyons des millions dans la rue encore samedi. Et ce soir à Gérardmer, nos passarams.
J'appelle suite aux prises de parole concernant la mort de Clément, militant antifasciste, étudiant à Sciences Po et solidaire. Clément n'était pas un militant du Front de Gauche. Je connais des amis à lui personnellement. J'étais hier soir à la Riboisière. Que le Front de Gauche organise des manifestations contre le Front National, il était enfin temps. Que le Front de Gauche récupère les gens qui se battent pied à pied contre les fascistes et les nazis, c'est quand même autre chose. Donc, moi, je milite dans des collectifs antifascistes. Je suis pour l'unité contre les fascistes, mais il faudrait que le Front de Gauche fasse un vrai travail unitaire et ne se récupère pas, comme des charognards, les victimes des nazis, auxquelles le Front de Gauche ne répond que par des luttes électoralistes.
Salut Daniel, juste un message de Gilles de Fréjus, dans le Var. No pasaran, les fascistes, entendez bien ça, no pasaran, comme nos anciens.
Bonjour, là-bas si j'y suis, donc c'est une réaction par rapport au meurtre politique, et je dis bien le mot politique, de ce jeune Clément. Ça fait combien d'années que l'extrême-gauche, les collectifs différents et variés, dénoncent la violence des fascistes sur les militants de gauche? Ça fait combien de temps qu'il y a eu des blessés graves qui ont été annoncés, diffusés, et que personne n'a relayé dans les médias ces affaires? Il y a des gens qui ont été attaqués à Lyon, à Saint-Jean, à Villeurbanne, qui ont été dans le coma avec des troubles neurologiques qu'ils ont toujours aujourd'hui, et personne n'en a parlé. On découvre subitement que l'extrême droite est violente contre les militants d'extrême gauche.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui traduisent un état de choc jusque dans les profondeurs de la mémoire de notre pays, mais aussi un choc qui peut être un réveil, une prise de conscience face à une extrême droite qui a repris du poil de la bête immonde ces derniers temps, encouragée par la banalisation du Front National et par la résignation générale. Si cette prise de conscience va au-delà de l'émotion où nous sommes en ce moment et entraîne une mobilisation organisée contre les groupuscules xénophobes et violents qui prospèrent partout, alors Clément ne sera pas tout à fait mort pour rien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans la manif qui était hier place Saint-Michel à Paris avec Anaël Verzo, et puis on retrouvera Zev Sternel. Zev Sternel, grand historien israélien, spécialiste du fascisme en France. On l'a reçu il y a assez peu de temps pour son livre, qui est l'œuvre de sa vie, intitulé « Ni droite, ni gauche ». Et on va tenter de revenir avec lui sur l'histoire du fascisme en France pour tenter d'apporter une réflexion de fond historique sur les événements que nous vivons. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut, c'est les copains de Barcelone du Café Repère. Un petit message pour vous dire que ce soir, on est devant le consulat de France pour rendre hommage à ce jeune qui s'est fait tuer hier à Paris pour protester contre ces crimes fascistes et pour rendre hommage à Clément Méric. Non, pas Saran. Non, pas Saran.
Le repère de là-bas, si j'y suis, de Toussaint, le village au cœur des betteraves du Gâtinais au sud de la Seine-et-Marne, se réunira ce vendredi soir 7 juin à partir de 20h au café La Tête des Trains pour une soirée citoyenne et de résistance poétique autour de l'œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwish. Darwish n'est pas seulement le poète de la résistance, il n'est pas seulement un poète palestinien, il est bien plus, il nous appartient à nous tous. Ces images, ces questions sur la vie sont une autre résistance face au désespoir et à l'abandon. Latifa Schmitt et Reza Iwa liront certains poèmes en français et en arabe avec une pensée pour le jeune Clément. Soyons nombreux à célébrer la poésie. Salut.
Oui, bonjour. Je viens d'apprendre le décès de Pierre Morois. Et c'est bizarre parce que je pensais à lui hier, parce que ça avait été l'une des personnes à dénoncer il y a 20 ou 25 ans peut-être, je ne me rappelle plus, l'amalgame qui a été fait entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je crois que c'était suite à une déclaration de M. Alain Juppé. Merci.
Bonjour, là si j'y suis. Ici les Alpes-Maritimes. Nous bougeons aussi pour Clément, bien sûr, à la mémoire de Clément. Ce vendredi 7 à 18h30, à Nice, place Garibaldi, à Cannes, au Monument aux Morts, toujours à 18h30.
Il avait 18 ans et militait à l'extrême gauche. L'information est donc tombée en fin de journée. Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris. Voici son visage. Le drame a provoqué, je vous le disais, une onde de choc. Et ce soir, 7 personnes sont en garde à vue.
Il y a une odeur des années 30, c'est la désaffection à l'égard de l'ordre existant. C'était ça, en fait, les années 30. D'abord, l'ordre existant faisait faillite. Alors, on se demande aujourd'hui, est-ce que l'ordre existant ne fait pas faillite une fois de plus aujourd'hui ? C'est ça la grosse question.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Verzo et Zeb Sternel. Clément, 5 juin 2013.
Flight number 2, arriving from New York.
On est avec les amis, les camarades et d'autres personnes qui sans doute ne connaissaient pas forcément Clément. Et on quitte le passage du Havre où Clément a été assassiné hier. Et on se dirige vers la place Saint-Michel où il y a un autre rassemblement à 18h30. Et alors là, il y a une banderole tenue par deux femmes, féministes et lesbiennes, le fascisme et le néolibéralisme. C'est beaucoup de très jeunes gens qui sont là, mais pas seulement. Pardon monsieur, on va où là ?
Châtelet.
À pied ?
À pied.
Vous connaissez Clément ?
Non, mais... Mais face à ce qui se passe, on ne peut pas simplement faire des petits rassemblements pour montrer une détermination. Voilà. C'est pour ça qu'on y va en manifestation, c'est le minimum qu'on puisse faire. Quoi.
Vous militez aussi ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire militer, j'agis dans ma vie, et voilà, à tous les niveaux où je peux, modestement. Voilà. C'est même pas une question de solidarité, c'est d'être actif dans sa vie. Et ça, à partir du moment où ça vous touche, il faut réagir.
Porter une pancarte sur laquelle il est écrit « Amis, si tu tombes, 1000 amis sortent de l'ombre ». Et vous faites partie de ces amis ?
Mais c'est un camarade, c'est un militant antifasciste, donc on est dans le même côté de la barricade. C'est dans ce sens. Il était un militant antifasciste du Sud solidaire, donc...
Vous êtes à Sciences Po aussi ?
Non. Je suis surveillante, je suis féministe, activiste dans le mouvement féministe, antifasciste aussi.
Je laisse marcher.
Ouais, merci.
Et là, sur un mur pour les travaux, il y a un jeune garçon qui a écrit « Pour Clément et les autres ». Pour Clément et les autres. Ce qu'il vient de graffer, là.
Des manifs, des rassemblements, pas seulement à Paris, mais un peu partout en France, à la mémoire de Clément, bien sûr, mais aussi face à la montée des groupuscules d'extrême droite, qu'on voit fleurir depuis quelques mois. Rassemblements souvent à l'appel des militants antifascistes, Antifa, dont Clément faisait partie, et des militants antifascistes très, très vigilants face à toutes les récupérations.
Le mur derrière, au fond de la maison, traînent encore quelques tags, quelques piopos. Ça fait causer des flics et disserter les cons sur l'avenir du monde et sa proche destruction.
Tout se dégrade, 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 tout se dégrade.
Ça sent si bon la merde dans ce petit coin de France qui respire la misère et inspire la violence. Le fascisme y prospère, on y parle, on y pense, on y rêve même le soir de môme, tous en cadence.
Tout se dégrade, 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 tout se dégrade.
Sens-tu donc la nuit,
et oh,
l'odeur du moisi,
l'odeur
de ces hommes-là
qui veulent
que l'on marche au pas.
Tout se dégrade,
quelquefois dans son lit, on regrette le soir d'habiter un pays où ça dérive dardard. Vers des routes dangereuses où défilent les chemises noires, assistés tortionnaires, champions de la baignoire. Méfie-toi ma fille, méfie-toi mon garçon, j'essaie de rentrer dans tes oreilles naïves. Des messages de sang, de haine et d'exclusion, ils utilisent le pire pour t'amener sur leur rire.
Tout se dégrade, 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 tout se dégrade. Eh oh,
sens-tu donc la nuit?
Eh oh,
l'odeur du moisi,
l'odeur
de ces hommes-là
qui veulent
que l'on marche au pas. Alors lève la tête au-dessus de la mêlée, fais marcher ton cœur et puis ta tête. Crache-leur à la gueule à tous ces enculés, et même si le fond, on leur fera leur fête.
Tout se dégrade, 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 tout se dégrade. Eh oh,
sens-tu donc la nuit?
Eh oh,
l'odeur du moisi,
l'odeur
de ces hommes-là
qui veulent
que l'on marche au pas.
Lola.
Lola, vous êtes dans la marche.
Vous êtes étudiante?
Oui, à Nanterre.
Et vous êtes là en hommage à Clément?
Oui, sans le connaître, ça m'a paru logique de venir apporter un soutien, être là. Ça me paraît une cause assez importante pour prendre quelques temps sur ma vie d'étudiante pour venir soutenir la famille, les proches, les gens qui ont lutté comme nous pour la même chose.
Vous
avez quel âge?
22.
Le fascisme, c'est
la... J'avais son âge quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique et quand je me revois à cet âge-là, je me dis que c'est vraiment trop tôt. Je fais de la science politique à la fac, donc ça m'a permis d'avoir des clés d'analyse et de pouvoir comprendre ce qui se passait autour de moi. C'est ce qui me paraît important. Et c'est aussi une manière de, voilà, d'associer la théorie et l'action. Ça me paraît aussi important d'étudier ce qui se passe autour de nous que de prendre un engagement, comme il l'a fait lui. Si moi je suis là, comme d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on se sent mal.
Et là on arrive à Saint-Michel. La place est pleine à craquer. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints peu à peu dans le cortège au fur et à mesure que la marche avançait. Sur la droite, il y a une camionnette Europe 1 et puis on vient de passer plusieurs cars de CRS. La place Saint-Michel est pleine. Il est 7h moins le quart.
Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, juste là quand la sainte clique nous prendra-t-elle en ville bétail, à qu'enfin la République de la justice et du travail. Oui, mais ça brûle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres.
Vous êtes au NPA.
Oui, on est au NPA, oui.
Et vous êtes venu à ce rassemblement donc en hommage
à... Bah, rendre hommage et puis surtout, oui, rendre hommage parce que quand c'est un jeune de 18 ans, bah, voilà, ça fait mal au cœur, ça fait mal aux tripes. Et puis en même temps, voilà, y a besoin de réagir parce que cette violence, c'était un peu ce qu'on était justement en train de discuter, cette violence de l'extrême droite, ça fait quand même des semaines qu'on la voyait monter. C'est-à-dire que, en fait, au travers de la Manif pour tous, on a quand même un peu l'impression qu'il y a une certaine radicalisation à droite, mais on a eu aussi le sentiment qu'à la marge, il y a plein de petits groupes d'extrême droite vraiment très virulents, très dangereux, etc., qui se sont un peu réveillés, qui ont recruté, qui se sont aussi un petit peu renforcés dans le sens de prendre confiance en eux. Et il y a quand même eu plein d'homosexuels, par exemple, qui ont été agressés ces dernières semaines. Il y a eu pas mal d'incidents et d'échafourés. Ça intervient quand même dans un certain climat qui n'était pas serein. Et voilà, alors tout d'un coup, effectivement, il y a un mort. Et là, ça fait un peu prendre conscience qu'il y a quand même un vrai problème avec l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, toute l'extrême droite, parce qu'il y a les petits groupes fachos, et puis il y a quand même le Front National. Et même si le Front National a condamné cette agression, on voit bien que, et des tas de rassemblements le montrent, il y a une extrême porosité entre le Front National et ces groupes extrêmement dangereux et violents. Donc c'est aussi un peu ça le sens du rassemblement. J'ai l'impression que s'il y a plein de gens là, c'est aussi parce qu'il y a une vraie émotion. Enfin, que moi j'ai ressenti dans mon milieu de travail avec des gens qui ne sont pas politisés, qui ne sont pas syndiqués. Mais voilà, ça les a quand même touchés en fait. Mais je travaille dans un lycée à Paris. Le vrai problème de tout ça, c'est que c'est sur fond de crise sociale, c'est sur fond de montée du racisme. C'est quelque chose qu'on voit monter depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, lentement, mais sûrement. Et forcément, à un moment donné, bah, ça finit par produire quand même certains débordements. Le gouvernement, quand il pense que le principal ennemi, c'est plutôt les immigrés, c'est plutôt les Roms, et c'est pas les petits groupes d'extrême droite qui s'attaquent aux immigrés, aux Roms, etc., et bah, porte aussi, de ce point de vue-là, une certaine responsabilité. Il est temps de peut-être d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a un vrai problème avec l'extrême droite dans ce pays et depuis longtemps.
Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers.
On se trouve juste devant la fontaine Saint-Michel. Et là, c'est quelqu'un du parti Syriza grec qui va s'exprimer.
Concitoyens, de la part des militants grecs de Syriza en France et de tous les citoyens démocrates grecs, je voudrais exprimer une grande pensée à la famille des camarades Krama. Nous, les citoyens grecs, nous sommes enragés contre tous ceux qui, par les politiques, favorisent la montée du fascisme en Europe. Camarade Clément a été assassiné par les groupuscules de l'extrême droite, groupuscules frères avec les groupuscules grecs, qui étaient transformés en parti politique. Il s'appelle Obdoré. Il ne s'agit pas d'extrême droite à la façade de plus en moins républicain. Il s'agit d'extrême droite assumant ouvertement son racisme, sa xénophobie, son négationnisme. Il s'agit de milices armées, au début contre les migrants, ensuite contre les militants de la gauche, et puis contre les homosexuels, des artistes, des sans-styles progressistes, des intellectuels. Un mouvement de résistance contre la montée des extrêmes droites en Europe, un front de résistance pour une autre Europe, de la démocratie, de la paix, des droits démocratiques et sociaux, une Europe antifasciste. Merci.
Oh, excusez-moi, camarade, on va donner le dernier mot à un camarade de Clément de la lutte antifasciste.
Clément était un frère. Et Clément était anarchiste. Clément n'était pas pour une sixième république. Il était pour une liberté libre, sans État, ici, partout et toujours.
Non pas salade ! Non pas salade ! Non pas salade !
Il y a un monde fou sur cette place. Ah tiens, je vois Gérard Filoche là-bas.
Oui. Ensemble.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Ensemble. Dans un cas comme ça, il faut être ensemble. Mais... le mot le plus important, c'est ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut arrêter ce genre de crimes barbares. C'est ensemble, c'est pas en s'opposant les uns les autres. Hein. Toutes les gens de gauche peuvent être visés par ça. Qu'ils soient socialistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient trotskistes, qu'ils soient anarchistes. Les nazis, en fait, ils font pas la différence. Alors nous, faut pas faire de différence entre nous contre les nazis.
Camarades et citoyens, nous appelons à la dispersion du rassemblement. Restez vigilants sur les mobilisations à venir. Et merci d'avoir été là.
En plein cœur de l'été, au temps des clairs de lune, je vois se propager l'horrible peste brune. C'est elle qui fait qu'on tire sur un gosse de 10 ans. Et son éclat de rire, ça finit dans le sang. La bêtise délire, et puis revient le temps où l'on meurt simplement d'être une autre race, d'être un peu différent, de suivre une autre trace, d'être un peu différent, de suivre une autre trace. De la rue des Rosiers, en passant par Nanterre, le monde est gangréné par ce démon sectaire que l'on nomme racisme,
que l'on nomme racisme,
qui n'est que le symptôme,
qui n'est que le symptôme
du cancer du fascisme,
du cancer du fascisme
qui abêtit les hommes et les pouvoirs complices,
les pouvoirs complices
et les médias du silence. C'est le feu d'artifice,
c'est le feu d'artifice
de notre intolérance.
Quand on condamne à mort l'autre et sa différence, sans comprendre, sans remords, l'autre et sa différence, sans comprendre, sans remords.
Partout le bruit des bottes résonne dans les rues, les peuples qu'on garrotte et les enfants qu'on tue. De Jara à Moulin,
de Jara à Moulin,
d'Allende à Toufik,
d'Allende à Toufik,
on voit les assassins,
on voit les assassins
au visage cynique, bafoué du revers,
bafoué du revers
de la simple dignité. Ce sont les tortionnaires,
ce sont les tortionnaires
de notre liberté.
Et le fond de la bête, qu'on ne tue pas toujours rien qu'en coupant la tête, qu'on ne tue pas toujours rien qu'en coupant la tête.
Écoutez-moi bien, vous, les forces nouvelles, les assassins, les tueurs de soleil. Pour que vive la race,
pour que vive la race
du pays qu'est la terre,
du pays qu'est la terre,
où vous trouverez en face,
vous trouverez en face
le feu de la colère. La vérité vaincra,
la vérité vaincra,
et la raison va gagner. Même si pour cela,
même si pour cela
il vous faut nous tuer,
au-delà des ordures, nous sommes tous des frères. Nous crierons haut et sûr du fond de la colère. Au-delà des ordures, nous sommes tous des frères. Nous crierons haut et sûr du fond de la colère. Au-delà des ordures, nous sommes tous des frères.
Ni droite ni gauche, c'est le titre du bouquin, de l'énorme bouquin de Zev Sternel, historien israélien. Ni droite ni gauche, c'est son travail durant des années sur le fascisme en France. On pense toujours que le fascisme, c'est ailleurs, c'est en Espagne, c'est en Italie, c'est en Allemagne, c'est en Amérique latine, c'est le Chili, c'est l'Argentine. Et non, Zev Sternel nous explique qu'il y a une histoire du fascisme en France qui est très préoccupante, dont nous aurions dû peut-être plus nous préoccupés. Actuellement, on parle souvent de ce retour des années 30, pas un débat, pas un dîner sans entendre le leitmotiv du retour des années 30. Le fascisme sera-t-il à nouveau l'issue, la solution à la crise du capitalisme que nous traversons, à l'heure où la gauche non libérale ne répond plus au désarroi des classes populaires, le Front National se déguise en partie anticapitaliste, en empruntant, en volant les valeurs de gauche, les idées de gauche, les idées sociales. Et Zeb Sternel nous rappellera, ne manquera pas de nous rappeler que dans nazi, il y a national, mais il y a aussi socialisme.
Son premier défilé du 1er mai, Marine Le Pen avait donné ses consignes. Interdiction d'afficher tatouage, croix celtique ou tout autre symbole skinhead.
La chaîne parlementaire, 2 mai 2011.
Derrière Jean-Marie et Marine Le Pen, on a préféré mettre en avant les jeunes. Sur leur drapeau, liberté, un des nouveaux thèmes de campagne de la présidente du Front. Les jeunes de la Marine martèlent leur slogan, version light. Pourtant, un peu plus loin, les tatouages ou autres signes dépassent des t-shirts. Pas facile pour le parti d'extrême droite de se débarrasser de ces historiques.
Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Moi, ça fait 20-25 ans que je fais des défilés. J'ai fait des défilés avec des mecs qui avaient des bombers, avec des crânes rasés. Et j'ai jamais vu de quoi que ce soit de mal avec eux. Maintenant, si vous voulez, on va avoir du mal, bon, bah, on va en banlieue, on va en trouver du mal.
Autre volonté affichée, à la tribune, devant la statue de Jeanne d'Arc, avec un discours très social, Marine Le Pen s'affirme comme candidate des classes populaires.
Car la mondialisation, c'est le nivellement du monde. C'est cet esclavage des temps modernes, le transfert de population d'un continent à l'autre, constituant ainsi l'armée de réserve du capitalisme qui permet à quelques grands patrons d'exploiter les travailleurs français.
L'offensive sociale de la présidente du FN semble porter ses fruits. Selon un récent sondage, elle recueillerait près de 36% des intentions de vote des ouvriers au premier tour.
Alors Zeb Sternel, je suis très content de vous rencontrer.
Merci. J'ai sous les yeux un bouquin qui fait 1072 pages.
1072
beaucoup pages. De papier.
Beaucoup de papier, beaucoup d'années de travail. Ça s'intitule « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France ». Et vous travaillez sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Et votre travail fait polémique. Pour résumer, vous dites, oui, la France, les Français s'imaginent avoir été vaccinés, immunisés contre le fascisme, si on prend l'histoire du XXe siècle. Le fascisme, c'est ailleurs, c'était en Allemagne, c'était en Espagne, etc. Mais nous, oui, bien sûr, on a une petite période, Vichy, etc. Mais enfin, voilà, maintenant, cet animal-là, ce monstre, s'est éloigné.
À la veille de la Première Guerre mondiale, un courant intellectuel important qui entraîne des syndicalistes, qui entraîne des travailleurs aussi, mais surtout la droite syndicaliste, et qui nous dit « il n'y a pas d'alternative à l'économie libérale, mais il y a une alternative à la politique libérale et aux droits de l'homme. » C'est-à-dire « il y a une alternative au contenu intellectuel et moral du libéralisme et non pas à l'économie libérale. » C'est là, vraiment, la naissance du fascisme. Et tout ça se passe avant la Première Guerre mondiale. C'est mis en branle en France parce que la France était la société libérale la plus avancée du continent européen. Mmh. Et tout ce monde-là, ensemble, fabrique, si vous voulez, cette idéologie nouvelle, souvent brillante, et qui devient une force politique à la faveur de la Première Guerre mondiale et des crises qui suivent la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre fournit, si vous voulez, la masse critique, la masse sociologique qui permet de transformer une idée en mouvement et ensuite en régime.
Ouais, qu'on revienne maintenant entre ce fascisme français et le Front National aujourd'hui. On a deux époques dans le Front National, le père et la fille. Et aujourd'hui, la fille, elle a normalisé le Front National. Elle est tout à fait dédiabolisée, comme on dit. Son parti est dédiabolisé. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle emprunte beaucoup d'idées à la gauche radicale, la gauche anticapitaliste.
Je dois évoquer devant vous le plus grand racket de tous les temps.
Marine Le Pen.
Celui des marchés financiers et des banques.
16 avril 2012.
Oui, mes chers compatriotes, je vous demande de bien m'écouter. Ce que je dis, je suis la seule à le dire. la seule à en parler, la seule à oser proposer un changement radical pour nous libérer des marchés financiers et des banques rapaces. Oui, tout le monde le voit, la banque a pris le pouvoir, les spéculateurs ont pris le pouvoir, Goldman Sachs suscite partout de véritables coups d'État. Goldman Sachs place ses hommes à la tête des pays de la zone euro. Et Goldman Sachs place son homme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et cela ne choque pas les belles âmes qui nous dirigent. Cela ne choque pas Nicolas Sarkozy ou Madame Merkel, parce que ce sont leurs amis. Grèce, Italie, Banque Centrale Européenne, les oligarques prennent le pouvoir partout dans le dos des peuples. Depuis 1973, la loi Pompidou-Giscard oblige notre État à emprunter auprès des marchés financiers et des banques à des taux de plus en plus prohibitifs. Les politiques de droite et de gauche ont méthodiquement ligoté le peuple français.
Ce qui m'intéresse dans cette question, c'est aussi un peu autre chose. J'ai fait, il y a 2-3 ans, des reportages en Allemagne, et je suis tombé sur un ex-néo-nazi, un garçon qui était un néo-nazi repenti, on va dire, et qui était un type très intelligent, et qui nous expliquait comment son mouvement néo-nazi s'inspirait très souvent des idées de la gauche de gauche, et par exemple, trouver des idées dans le monde diplomatique. Alors, vrai que vous nous parliez de ça, du fascisme et de la gauche, voire même du fascisme et des idées libertaires. Dans votre bouquin, vous évoquez assez souvent Proudhon. Et comment, quel lien peut-il y avoir entre, au fond, le fascisme et l'anticapitalisme ?
C'est une question difficile. Il est plus facile de la poser que d'y répondre.
C'est vous qui allez avoir tout le mérite. Alors.
Mais c'est une question fondamentale. Lorsque le Front National fait appel au nationalisme, parce que le Front National, c'est tout d'abord un mouvement nationaliste, et au nom de la nation, il fait appel à ses sentiments anticapitalistes. Parce que le capitalisme, lui, est considéré comme détruisant la nation. C'était ainsi déjà à la fin du 19e siècle. Au tournant du 20e siècle, nous avions ce phénomène-là. On considère que le capitalisme, c'est-à-dire la concurrence, la guerre au couteau, la survie du plus apte, met en danger la nation, la solidarité nationale. La solidarité nationale exige que l'on mette fin, que l'on mette fin à cette concurrence effrénée, qu'on mette fin à cette lutte de tous contre tous, qu'on mette fin à la loi du marché. Mmh. Et ça, c'est important parce que beaucoup de monde trouve que c'est important et que c'est une raison d'espérer. Je dirais encore une chose. L'extrême droite est toujours là, mais l'extrême gauche, elle, a disparu. Il n'y a pas vraiment d'extrême gauche aujourd'hui en France. Si on regarde le Parti communiste, le Front de gauche, vous savez, par rapport à un passé relativement récent, ils se situent tous un peu à la droite de la SFIO de Léon Blum. La SFIO de cette époque était beaucoup plus radicale dans ses conceptions sociales que n'est aujourd'hui le Parti communiste, qui ne remet pas vraiment en cause les structures sociales telles qu'elles sont. Il veut améliorer le sort des travailleurs, il veut améliorer les rapports sociaux, mais ne les met pas en cause. Il y a un demi-siècle, on parlait de la fonction tribunicienne du Parti communiste. Mmh. Il fallait que le peuple ait un tribun. Le Parti communiste était le tribun du peuple. Le Parti communiste n'est plus capable de remplir aujourd'hui cette fonction de tribun du peuple. Il est trop petit aujourd'hui. C'est là qu'arrive le Front National. Il mobilise les travailleurs, il mobilise des ouvriers. Il mobilise dans les couches sociales défavorisées contre le capitalisme qui, pour beaucoup de gens, sonne leur mort, Le capitalisme, c'est les gens mis à la porte de leur entreprise, c'est le chômage. Le capitalisme, la globalisation, ça signifie qu'on prend du travail français et on l'envoie en Chine. Et c'est ça qui permet, si vous voulez, d'être à la fois nationaliste, anticapitaliste, anti-globalisation, et c'est pour ça que le néo-nazi dont vous venez de me parler lit aussi le monde diplomatique, parce qu'il trouve dans le monde diplomatique de la nourriture intellectuelle, spirituelle, qu'il ne trouve pas ailleurs, ni chez les conservateurs, ni la droite conservatrice et libérale, ni la gauche modérée. Parce qu'il faut dire la vérité, un peu partout aujourd'hui dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne, les vraies différences entre la droite conservatrice et libérale au pouvoir, disons aujourd'hui en Grande-Bretagne, et le parti travailliste britannique est minime. La politique faite aujourd'hui par le parti socialiste français ne diffère pas énormément, elle diffère mais pas énormément de la politique qu'aurait fait une droite conservatrice libérale modérée. La question porte sur un peu plus ou un peu moins. Elle ne porte pas sur la nature de la société. Alors, ceux qui se lèvent contre l'ordre existant d'une manière beaucoup plus radicale, c'est la droite extrême, c'est le Front National. C'est le Front National qui dit ne pas accepter les règles de jeu de la démocratie capitaliste, ou du néolibéralisme. Ils n'acceptent pas cela. C'est pour ça qu'ils sont aussi anti-européens, parce qu'ils pensent que l'Europe, en fait, joue contre la nation. Mmh. Et préserver la nation, c'est préserver les solidarités nationales, c'est-à-dire de s'occuper d'abord de nos citoyens, de nos pauvres, de nos déshérités, et non pas du monde entier. C'est pour ça que le Front National exerce cet attrait qui parfois sidère, parce qu'on se dit, mais bon sang, après tout ce qui s'est passé il y a 70 ans, 80 ans, eh bien, voyez, ce qui s'est passé dans les années 30 et 40 n'était pas un accident. Ce n'est pas un accident qui est arrivé à la culture européenne. C'est partie intégrale de la culture européenne. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de raison, ça je l'ai dit il y a des dizaines d'années déjà, il n'y a pas de raison méthodologique de penser que tout cela a été enterré dans les ruines de Berlin une fois pour toutes. Mmh. Ce sont des problèmes qui sont toujours les nôtres.
Le ventre est encore chaud. C'est la fameuse phrase de Bertolt Brecht. Le ventre qui a enfanté est encore chaud.
Hommes, femmes, enfants, vieillards, déportés de toute nationalité, de toute confession, de 1933 à 1945, environ 12 millions de morts. Hommes, veillez. Il est encore fécond, le ventre, d'où est sortie la bête immonde.
Sef Sternel, on continue avec vous. Vous avez évoqué la place prise par le Front National, une sorte d'appel d'air. Hein, voilà, il n'y a plus personne pour défendre ou pour représenter les plus modestes et les plus vulnérables d'entre nous. Donc, mécaniquement, on pourrait dire, selon une mécanique sociale, eh bien, cet électorat-là va vers le Front National. Et vous dites parce que il n'y a pas de gauche radicale véritablement en France, et la gauche actuelle en France est à la droite de la SFIO, de Léon Blum de 36. Comment est-ce que cette gauche en France en est arrivée à cette impuissance ? Là aussi, c'est une question facile à poser.
Ah, ça, c'est comme les questions précédentes. Je me demande comment vous trouvez toutes ces questions-là. La gauche est arrivée, je crois, à ce stade où elle a abandonné la volonté de changement radical. Elle y est arrivée parce qu'elle s'est alignée sur ces partis socialistes, d'abord le Parti socialiste allemand. Ensuite, elle a trouvé qu'il était beaucoup plus facile et beaucoup plus utile de gouverner plutôt au centre que de s'accrocher aux idées fondamentales de la gauche. Je crois que c'est ce qui s'est passé. La vieille Sofia est morte dans les guerres coloniales. N'oublions pas qu'il y a eu déjà le poujadisme. Il y a eu déjà le poujadisme qui était aussi un mouvement de révolte. Les guerres coloniales, la guerre d'Algérie, l'arrivée du général de Gaulle, la gauche est devenue pratiquement inexistante. Elle s'est refaite le lendemain de 68, elle s'est refaite avec François Mitterrand, mais elle s'est refaite non plus véritablement en gauche, mais beaucoup plus au centre. Le Parti socialiste est devenu un parti de centre-gauche. C'est ce qui est arrivé à d'autres partis socialistes. Dans mon pays, en Israël, c'est pareil. On a vu ce phénomène-là se produire d'une manière très très claire. Eh bien, la gauche aujourd'hui, la gauche socialiste en France, c'est un parti de centre-gauche. Ce n'est pas un parti qui met en cause les structures sociales. Ce n'est pas un parti qui met en cause le système économique.
Sur le terrain économique,
France 2.
D'abord, est-ce qu'on peut savoir si le Lionel Jospin de 2002 est à peu près le même que le Lionel Jospin de 97 ou 98, par exemple? Vous devez rencontrer demain,
21 février 2002,
entre autres, Gerhard Schröder et Tony Blair, qui sont un peu les héros de la gauche dite moderne en Europe. Vous aviez dit il y a quelques années, je ne suis pas très favorable à cette troisième voie-là. Donc est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne de crête, de dire non, notre socialisme n'est pas le même que ces socialismes-là qui se veulent plus modernistes et plus libéraux?
Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. Il est une synthèse de ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire la modernité. Il faut épouser son temps. Si nous nous enfermions, si nous n'évoluions pas, si nous n'affrontions pas les défis de la mondialisation, je pense que nous serions dépassés, débordés.
Alors, aujourd'hui, on est de ce côté-là. Demain, on est ailleurs. Il n'y a pas de politique ancrée dans des convictions intellectuelles et morales claires et bien enracinées. On ne vous dit pas, non, ce monde-là, il est injuste, il faut le changer et nous allons tout faire pour le changer. Ce ne peut être plus possible dans le cadre de l'Union européenne. Alors, il se pourrait que de ce point de vue-là, Marine Le Pen ait raison. Si on veut faire quelque chose en France, il faut sortir de l'Union européenne. Mais sortir de l'Union européenne, c'est abandonner le rêve d'un monde qui dépasserait le nationalisme. L'Europe signifie un dépassement du nationalisme.
Enfin, on peut faire aussi, et des fascistes français en ont rêvé, une Europe qui serait comme une super nation.
L'Europe ne peut pas être une super nation. Elle ne peut pas être une super nation parce que ce que les fascistes ont rêvé, certains d'entre eux, qui étaient déjà beaucoup plus proches du nazisme, ce serait une Europe soumise à la loi du sang. Alors ça peut être une Europe blanche, ça peut être une Europe antisémite, ça peut être beaucoup de choses. Mais dépasser vraiment le nationalisme, cela signifie que chaque nation garde sa spécificité culturelle, mais elle abandonne une partie importante de sa souveraineté politique. L'Europe, c'est l'abandon d'une grande partie de la souveraineté politique. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut une Europe, d'accord, mais alors il faudrait qu'à l'échelle européenne, que quelqu'un nous dise, d'accord, mais cette Europe-là ne peut pas être une Europe capitaliste et néolibérale. Il faut que ce soit une autre Europe. À cette Europe, il faut donner un sens tout autre que celui qu'elle a aujourd'hui. Et cela, je ne vois pas très bien qui est capable de le faire et qui veuille le faire, qui soit suffisamment convaincu que le monde tel qu'il est, la société telle qu'elle est aujourd'hui, est tellement injuste, est tellement intellectuellement et moralement mauvaise qu'il convient de la changer. Cela, on ne le dit pas. Il faut chercher une solution, même si cette solution, on ne la trouve pas aujourd'hui, si on ne la trouve pas demain ni après-demain, l'idée elle-même doit rester vivante parce que peut-être, dans un avenir quelconque, on trouvera un système qui puisse remplacer le système actuel.
Ce qui a permis l'installation de ce néolibéralisme et aussi, par voie de conséquence, l'extrême droite actuelle, le Front National actuel, c'est quand même aussi la chute du mur de Berlin, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Tout ce rêve que nous évoquons des Trente Glorieuses s'est effondré dans les années 80.
Mais toute la question de savoir pourquoi ça aurait dû s'effondrer, cet État qu'on appelle l'État-providence, le welfare state, pourquoi aurait-il dû s'effondrer? Pourquoi ne faudrait-il pas aujourd'hui le défendre avec toutes nos forces? Il n'a fait que du bien. Moi, je ne crois pas que l'idée thatchérienne, que les faiblesses de l'économie britannique de l'époque ou de n'importe quelle économie proviennent du fait que l'on assure un salaire minimum honnête, que l'on cherche le plein emploi. Pourquoi tout cela devrait-il s'effondrer? Il n'y avait aucune raison. On a, je crois, fait une erreur de méthodologique capitale en associant la recherche d'une société juste avec ce que l'on avait vu en Union soviétique. Le communisme stalinien n'a jamais constitué la recherche de la justice ou d'une bonne société. Jamais. Jamais. C'était la suite du tsarisme, et c'était immonde, c'était infect, et ça n'a rien à voir avec la recherche d'une société juste et bonne. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, regardez à quoi ça mène, regardez à quoi mènent ces utopistes. À quoi ça mène l'utopie? Ça mène au goulag. Avant, c'était déjà Auschwitz. On nous dit à peu près le goulag et Auschwitz, c'est plus ou moins pareil. Et ce sont les utopistes, d'abord du XVIIIe siècle, surtout le XVIIIe siècle français. Ensuite, les socialistes de tout poil au XIXe ou du XXe siècle. Regardez à quoi ça mène, le totalitarisme. Et ça, c'est aujourd'hui le mot, évidemment. Non, la recherche d'une société plus juste, beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire, et cette idée n'a rien à voir avec le communisme stalinien, cette idée n'a pas été éclaboussée. Et il faut préserver, si vous voulez, cette idée, son intégralité, dans son intégrité, sans tomber dans ce piège qui nous dit, si vous n'acceptez pas les principes qui régissent ce monde tel qu'il est, vous finissez nécessairement au goulag.
Merci à toutes et à tous, c'était Clément, 5 juin 2013, un reportage d'Anaël Verzeau dans les manifs à Paris et un entretien avec l'historien israélien Zev Sternel, auteur de Ni gauche ni droite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site labas.org. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission, là-bas si j'y suis. Et aussi sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis, où vous pouvez vous exprimer sur ce sujet. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Ronan Mahé, Lucie Hakoun et Franck Aderer ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Savemnovitch. Et Marion Dupas, attendez à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
À Un jogging toujours dans le même parc, c'est lassant. Alors depuis que j'ai gagné à Euromillion, je varie. Central Park, la Grande Muraille de Chine, les Maldives. Mais le mieux, c'est le Mexique. Je cours sur les marches du Temple Maya comme ça, en même temps, je fais du step.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Exceptionnel. Ce vendredi, super jackpot de 100 millions d'euros. Oui, je répète, 100 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un été avec Montaigne, un livre d'Antoine Compagnon.
Montaigne parle de sa sexualité avec une liberté qui peut déconcerter aujourd'hui.
En 40 chapitres, Antoine Compagnon nous fait redécouvrir un Montaigne drôle et limpide et propose un nouvel art de vivre et de penser.
Le style de Montaigne, c'est cela. Une cape jetée sur l'épaule, un manteau en écharpe, un bas qui tombe.
Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon, une coédition France Inter.
France Inter, partenaire de l'exposition Philippines, archipel des échanges, jusqu'au 14 juillet au musée du Quai Branly à Paris. À travers une exposition exceptionnelle, partez à la découverte de l'archipel des Philippines. Sculptures, bijoux en or, tentures, costumes, pour la première fois en Europe, l'exposition inédite présente plus de 300 œuvres majeures issues d'une grande civilisation précoloniale. Retrouvez l'exposition Philippines, archipel des échanges au musée du Quai Branly dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet. Une 33e édition qui fait la part belle aux légendes. Avec Chic Corea, Sonny Rollins, George Benson, Kassav, Chic et Neil Rogers. Sans oublier la nouvelle génération du jazz avec Yun Suna, José James, Roberto Fonseca, Céline Bonacina ou encore Chemekia Copeland. À retrouver dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve lundi à 15h pour La Basse Si J'y Suis. Bonne fin de semaine à tous. Il est 16h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet.
Recep Tayyip Erdogan aurait-il changé d'avis à propos des manifestants? Le Premier ministre turc s'est dit aujourd'hui ouvert aux exigences démocratiques, mais il rejette dans le même temps les actions violentes de ces derniers jours. En début d'après-midi, Bruxelles a mis en garde Ankara. Le recours excessif à la force par la police n'a pas sa place dans une démocratie. Les manifestations en cours ne menacent pas toutefois le processus d'adhésion à l'Union européenne. Aucune date précise n'a encore été donnée pour le moment pour les obsèques de Pierre Mauroy. Martine Aubry, la maire de Lille, a juste donné une ébauche du calendrier. Un hommage aux Invalides à Paris sera rendu en début de semaine prochaine à l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, mort ce matin à l'âge de 84 ans. François Hollande et Jean-Marc Ayrault seront présents. Et puis ensuite, son corps sera ramené chez lui, à Lille, où les Lillois pourront lui rendre hommage. Ses funérailles seront célébrées dans la foulée dans la cathédrale lilloise en milieu de semaine prochaine. 8 ce matin, 7 cet après-midi, dans l'enquête sur l'agression de Clément Méric à Paris mercredi soir, l'un des gardés à vue a été relâché en milieu de journée. On attend maintenant les résultats de l'autopsie pour savoir exactement comment est mort le jeune homme, d'un coup de poing ou après avoir percuté un plot métallique. Un policier du commissariat de Marignane dans les Bouches-du-Rhône a été retrouvé mort aujourd'hui dans son véhicule de fonction, une balle dans la tête. A priori, selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. 3 Français sur 4 sont favorables au rapprochement du public sur le privé en matière de retraite. C'est ce que dit aujourd'hui un sondage BVA publié pour iTélé. Ces Français souhaitent que les pensions des fonctionnaires soient calculées sur les salaires des 10 dernières années et non plus sur les 6 derniers mois, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le privé, le calcul se fait sur les fins de 5 dernières années. Raphaël Nadal est en train de prendre l'ascendant, mais on ne sait pas encore trop sur Novak Djokovic dans la première demi-finale de Roland-Garros. L'Espagnol mène 2-7 à 1, mais ça semble se rééquilibrer au quatrième, Matteo Maestrachi.
Alors pour être tout à fait précis, ça s'était rééquilibré puisque Novak Djokovic était mieux dans ce quatrième set. Il a été totalement transparent, hein, le Serbe, dans le troisième set. Un set expédié par Nadal, 6 jeux à 1 en à peu près une demi-heure. On a vraiment eu du mal à reconnaître Novak Djokovic qui était sûrement fatigué parce qu'il faut préciser que depuis le début du tournoi, le numéro 1 mondial serbe a joué des matchs plus longs que Nadal. Et puis bah, sous 28 degrés comme ça, avec la pression, c'est pas évident. Il a été totalement dominé dans le troisième set, remporté donc par Nadal 6-1. Ça allait mieux pour lui, mais attention, parce que Nadal, il y a quelques minutes, a réussi un nouveau break, le cinquième break réussi par Nadal dans cette demi-finale. C'est la cinquième fois qu'il a pris le service de Djokovic pour mener 4 jeux à 3. Et Nadal est en train de servir et il est mené 40-15, donc peut-être que Djokovic va débreaker. Et à l'instant, Novak Djokovic en direct sur France Inter qui réussit à débreaker, à prendre le service de Nadal pour revenir à 4 jeux partout. Nadal semblait se diriger vers la victoire. Et bien on recommence tout, on remet tout à 0, 4-4 dans cette quatrième manche. Ça va être serré et indécis jusqu'à la fin décidément.
Matteo Maestrachi en direct de Roland-Garros. On vous retrouve tout à l'heure à 17h, mais pour l'instant sur France Inter, 16h03.
Nous autres.
Le lieu du crime, c'est ici, et le travail de mémoire se fera ici.
Zoé Varier.
La société turque est aujourd'hui en train de faire son travail de déconstruction de l'histoire nationale.
L'histoire est en train de se réécrire ici. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça, c'est le djinn a sorti de la bouteille pour toujours, pour ne plus y rentrer.
Turquie, un pays en train de se redéfinir.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Allez, on parle musique, Sylvie Chapelle.
Oui, on,
pas
aimerait,
tennis.
On aimerait bien parler tennis, mais allez, c'est bien aussi de parler musique. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Vous êtes un musicien passionné, attiré par ça, mais à Cuba, il y a plus de médecins que de musiciens, par exemple.
Moi, j'ai toujours été fasciné par des gens un peu excentriques, des gens comme Bowie, comme Gainsbourg. Ils investissaient ce champ du dandisme.
Dans la culture anglo-saxonne, on a plus tendance à considérer la voix comme un instrument qui dialogue.
Il ne faut pas diriger pour le public. La musique doit arriver. On ne dirige pas pour le public, non. Ce serait ridicule.
Je vis dans une époque très riche.
Avec Sylvie Chapelle.
Je vois tout le bazar qui se passe, quoi.
On parle musique.
Incroyable.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter pour cette heure musicale. Quel chemin parcouru depuis son enfance passée à Tel Aviv, le conservatoire, le service militaire obligatoire en Israël, puis les productions parisiennes de Pascal Obispo et d'Eli Chouraki, sans compter un premier album resté dans l'ombre. Mais elle a persévéré, travaillé les couleurs, la densité de ses compositions et surtout, elle s'est mise à chanter en hébreu, suivant les conseils de son partenaire. Deux artistes, deux moitiés qui se complètent sans se confondre. On parle musique avec Yael Naïm. Yael Naïm et David Donatien, bonjour.
Bonjour.
Un nom peut en cacher un autre. Yael Naïm est en fait un duo, en tout cas il est devenu un duo. Et c'est depuis que vous travaillez ensemble que ça marche comme vous voulez, c'est-à-dire dans la direction artistique que vous souhaitez. Votre troisième album est en préparation. Vous disiez, Yael, avoir ressenti une pression pour le deuxième. On dit que c'est le plus dur à faire. Vous êtes dans quelle disposition pour le prochain ?
Ah, pour le prochain, c'est la fête, parce que justement,
plus de pression.
Il n'y a pas du tout de pression. Et puis, je ne sais pas comment décrire. C'est une sensation de liberté, d'envie d'essayer beaucoup de directions différentes pour trouver des nouvelles couleurs. Il y a vraiment, voilà, là, pour le coup, c'est l'inverse de la pression.
Vous êtes en phase de test. On va en reparler de ce prochain album, troisième album. Deux moitiés inséparables ne veut pas dire différenciables. Vous en êtes une preuve évidente sur les réponses que vous m'avez données pour la playlist d'aujourd'hui. Aucune n'était commune jusqu'au titre que vous préférez dans ce que vous avez fait ensemble. Vous ne vous êtes pas du tout concerté. Vous connaissez les choix respectifs là.
J'en ai vu quelques-uns. Mais j'ai pas tout vu. J'attends avec surprise ce qu'elle nous a concocté.
Classique et folk pour Yael, jazz, groove et musique antillaise pour vous, David. Vos parcours sont différents, mais votre projet commun. Yael, vous dites, on se dispute quand on parle de musique et on se réconcilie quand on en fait. Cette conversation est prometteuse, donc vous allez essayer de pas vous taper dessus. Alors j'ai quand même trouvé un moyen de mettre en commun vos réponses de musique dans vos premiers souvenirs musicaux. Yael, vous vous souvenez du film Amadeus,
oui.
Mozart.
Oui. Déjà, j'écoutais la musique classique, mais quand j'ai vu ce film, ça m'a fait un choc. Déjà, la musique, et puis ce film est vraiment bien fait. Et c'était un grand déclic, et je me suis dit, je me rappelle que j'avais fait un vœu d'écrire une symphonie jusqu'à l'âge de 30 ans, ce qui n'est pas arrivé, ce que j'ai pas fait. Mais voilà, le personnage, et puis la musique, et ce côté un peu extrême, Ça m'a parlé.
Vous vouliez être un Mozart version féminin, et puis vous avez été contrarié par Joni Mitchell, que vous avez découvert. Vous étiez douée quand vous faisiez... Vous avez fait du piano, vous avez fait le conservatoire.
La question, est-ce que j'étais douée?
On peut le dire, maintenant, il y a prescription, mais...
Oui, c'était sérieux. Je ne sais pas si j'étais douée, mais c'était sérieux. Et le but, à cet âge-là, je voulais vraiment être pianiste classique et je travaillais pour, et les profs qui m'entouraient me poussaient dans cette direction. Mais après, l'adolescence est arrivée et j'ai commencé à écrire des chansons d'amour et tout a changé.
David, vous m'avez cité Herbie Hancock. Herbie Hancock n'est pas si éloigné de Mozart, on connaît son rapport intense au classique. Mm-hmm. Et surtout, il est prodige du piano. Hein. Il a commencé à 7 ans et à 11 ans. Il jouait déjà le premier mouvement du 5e concerto de Mozart avec l'Orchestre Symphonique de Chicago. C'est la classe quand même. Il a toujours gardé un rapport. Il y a notamment une version du concerto en sol de Ravel, jazzifiée, où il improvise carrément dessus. Je vous propose d'écouter ce 5e concerto pour piano de Mozart, interprété tout de suite par Jos van Immerzel et son ensemble Anima Aeterna. En 90, ils ont enregistré l'intégralité des concertos pour piano de Mozart, dont celui-ci.
Thank you.